Chapitre 3e. Il arriva qu'un jour, Jeannie n'entendit point à l'heure habituelle la voix du solitaire du Lavray s'élever au-dessus des flots. Elle interrompit plus de 10 fois sa besogne pour courir au rivage où elle avait coutume d'interroger l'écho. Le jour suivant, même silence insolite. L'un de ses frères, à qui elle fit part de son souci, répondit brutalement « Qui sait? Peut-être est-il mort à force de le souhaiter ?» Supposition qui glaça le cœur de la pauvre fille. Ce nouveau malheur l'attendait-il après tant d'autres? Elle s'étonnait elle-même de l'effroi qu'elle en ressentait, comme s'il eût été le plus grand de tous. Pourquoi? Elle ne voyait plus Job. Il n'était plus rien pour elle, ni pour personne au monde. Cependant, l'heure où elle l'entendait chanter était la seule du jour où elle ne se sentit pas tout à fait abandonnée. La pensée lui vint qu'en profitant de l'heure du reflux pour aller à Lavray, elle serait de retour avant le coucher du soleil. Mais un sentiment de crainte l'empêcha de s'y arrêter. « Peut-être m'en voudra-t-il, se disait-elle, et sûrement on me blâmera ici. » Tandis qu'il s'inquiétait, irrésolu, passa le petit patour qui paissait son troupeau sur le serpolet de Lavray. Il portait joyeusement une pinte de lait. « Voilà, dit-il à Jeannie, ce que m'a donné Job Sinclair pour avoir trait ses bâches. » « Il ne les trait donc pas lui-même ? » demanda-t-elle, n'osant l'interroger d'une manière plus directe. « Je l'en défierais bien, » répliqua le jeune gars. « Il ne peut remuer bras ni jambes sur sa paille à l'heure qu'il est. » Et sifflant ses chèvres, il continua de marcher. Jeannie était déjà partie de son côté. Elle suivait, sans réfléchir davantage, le sillon rompu à plus d'une place et tapissé surtout d'algues glissantes, le long duquel, selon la tradition, 12 belles demoiselles habillées d'écarlate se rendaient jadis du château de Bréa à l'église de Lavray pour entendre la messe. Il faut croire que le flot a empiété depuis, car ce semblant de digue n'est praticable que pendant la courte durée de la basse mer. Il faut espérer surtout, pour l'amour des pieds délicats de ces nobles châtelaines, que les pierres étaient mieux jointes et plus solides qu'elles ne le sont aujourd'hui sous l'épaisse fourrure de goémon qu'ils recouvrent, servant d'asile à toutes les variétés de coquillages et de crabes. La petite rainette, assez forte désormais pour courir, s'arrêtait à chaque instant, captivée par une chasse qui fait les délices des enfants bréatais. Afin de la décider à presser le pas, Jeannie lui parlait du pauvre homme qu'elles allaient secourir. C'était son habitude d'entretenir cet enfant de tout ce qui occupait sa pensée. Elle l'allaitait encore que déjà elle la prenait pour confidente, s'accusant de l'avoir jetée dans la vie sur un chemin trop rude, et le sourire de l'enfant lui avait toujours pardonné. Depuis, Renette avait appris à discerner, non pas par les paroles de Jeannie, mais par l'expression de son visage et de sa voix, les moments où elle était plus triste que de coutume. Avec une gentillesse au-dessus de son âge, elle lui apportait la seule consolation qui fût en son pouvoir, une caresse. Instinctivement, elle comprenait que sa mère n'avait qu'elle au monde. Renette se distinguait par cette douceur, cette humble soumission des enfants qui, loin d'être fêtés dès le berceau, sont forcés de découvrir trop tôt qu'ils ont à gagner la bienveillance de gens hostiles ou tout au moins indifférents. C'était la fille de Cendrillon. Dans la maison où on la tolérait, elle ne faisait ni bruit ni espièglerie d'aucune sorte, moins pour n'être pas grondée que pour ne pas attirer de reproches à sa mère. Celle-ci lui ayant dit « Si tu me mets en retard, tes oncles se fâcheront ». Elle s'empressa de la suivre de toute la vitesse de ses petits pieds nus, sans plus se laisser distraire. Cependant, malgré sa bonne volonté, elle avait quelque peine à sauter de roche en roche, et le trajet prit beaucoup de temps. Jeannie calcula que la retraite de la mère ne durerait pas plus d'une heure encore. Dans quel état allait-elle trouver Job? Ses jambes la soutenaient à peine en approchant de la cabane, dont une pierre retenait la porte, formée de branches entrelacées. Elle frappa de plus en plus fort, puis, ne recevant pas de réponse, regarda dans l'intérieur par une étroite ouverture qui servait de fenêtre. Sur un lit de goémon desséché, gisait ce qu'elle prit d'abord pour un vieillard. Job avait laissé pousser toute sa barbe, et ses traits, qui sans régularité ni beauté réelle plaisaient autrefois, éclairés qu'ils étaient par la vivacité du sourire, l'animation du regard, l'exubérance de la gaieté, de la jeunesse, une jeunesse indépendante des années, celle du cœur, étaient maintenant voilés de pâleur terne et grise. Ses mains jetées devant lui sur la couverture de laine brune paraissaient crispées par le désespoir plutôt que jointes par la prière. la tête de Janie ayant intercepté le rayon de soleil qui pénétrait jusqu'à lui, il entr'ouvrit ses yeux démesurément grandis et brillants de fièvre. « Enfin, murmura-t-il, vous venez donc me prendre ?» Comme la porte s'entr'ouvrait timidement, il ajouta « Ce n'est que toi, Janie ?»«
Hélas, répondit-elle, Dieu sait que je donnerais ma vie pour vous rendre ce que vous demandez, mais là où elles sont, les chères âmes ne peuvent que vous attendre, et elles m'ont envoyé vers vous. »
« Je te crois, balbutia-t-il, je te crois. » Il tendait machinalement les bras, et elle y plaça la petite Reinette, quoique celle-ci se débattît un peu effrayée.
« Le dernier que j'ai perdu avait cet âge-là, » dit Job après l'avoir regardé dans une sombre rêverie.
La croix d'or qu'elle n'avait jamais cessé de porter attira tout à coup son attention.
« Marit, s'écria-t-il, et il embrassa le bijou avec un tel emportement que l'enfant se mit à crier. « Marit,
répéta Job à plusieurs reprises. Il fondit en larmes. Janie pleurait aussi, et pour la première fois depuis bien longtemps, le pauvre homme sentit son cœur se détendre.
« Mon Dieu, dit Janie, promenant des regards navrés autour de cette misérable hutte, est-ce bien vous qui pouvez vivre ici, Job ?»«
Bah, bientôt je ne serai plus seul, répliqua-t-il en montrant le ciel, et avec un accent qui disait assez l'horreur du supplice auquel ce caractère sociable, cette âme expansive, s'était volontairement condamné.
« Je vous comprends, interrompit Janie, mais la mort serait un trop triste remède. Vous guérirez si vous voulez seulement renoncer à cette idée fixe qui vous a fait perdre la tête et retourner chez vous. »
Il répondit, « J'ai juré.
Si j'avais agi comme vous, cet enfant-là n'aurait pas de pain.
Tu étais moins coupable que moi, Janie. Tu n'avais fait de mal qu'à toi-même, et il paraît que moi j'en ai fait beaucoup aux autres.
Quant à cela, je ne le croirais jamais, répliqua-t-elle avec indignation. Vous étiez le meilleur et le plus charitable de tout Bréa. Si la musique était un péché, on ne nous la promettrait pas en paradis, et Dieu ne nous avait pas donné du talent pour n'en rien faire.
Monsieur le recteur défendrait volontiers aux oiseaux de chanter, mais les oiseaux ont plus de sagesse que vous, ils ne l'écoutent pas. »
Un sourire triste effleura les lèvres de Job. Il faut bien se sauver à tout prix de l'enfer quand on a au ciel ce qu'on aime.
Il faut d'abord, riposta Janie en prenant sa fille sur ses genoux, porter sa part de peine sans penser à soi-même, en vivant pour quelqu'un.
Elle se leva, alluma un bon feu de goémon, le fit boire, le couvrit de sa cape, puis voyant que la fatigue d'avoir parlé le conduisait au sommeil, voulut prendre congé de lui.
« Demain, dit-elle tout bas, je vous amènerai la sœur. »
« Reste, balbutia Job, presque endormi et la retenant par la main. « Reste,
répétait-il comme en rêve. Elle se rassit, partagée entre la compassion et la crainte. Elle voyait le soleil baisser de plus en plus et croyait entendre ce premier frémissement à la suite duquel la mer se répand avec une prodigieuse rapidité. Pourtant, il lui en coûtait de partir au moment même où elle était utile. Le contact de sa main semblait en effet rafraîchir la main sèche et brûlante de Job, dont la respiration devenait plus légère, et Janie ne s'en étonnait pas, car souvent elle avait calmé ainsi son enfant malade.
Que faire ?
Chaque fois qu'elle se levait, décidée à s'éloigner, une plainte l'arrêtait. Un peu de temps se passa ainsi. Enfin, elle prit son parti, non sans effort, et sortit doucement. À la vue de la mer, un cri lui échappa. Le flot avançait si vite qu'à peine le pied posé sur la chaussée, on eût été enveloppé par lui. La grande bataille périodique qui livre aux écueils s'engageait. Il enlaça d'abord les roches les plus avancées avec les mille circonvolutions d'un animal félin qui joue avant de dévorer, léchant leur base comme prélude à l'assaut et gagnant du terrain de tous les côtés à la fois. Sa marche, dissimulée par les accidents de la grève, n'avait encore rien de formidable en apparence. Quelques secondes de plus cependant, et l'imprudent qui se fût aventuré au milieu des rochers encore découverts eût été englouti. Janie savait à quoi s'en tenir. Affaissée sur le rivage, elle suivait d'un œil morne les manœuvres perfides de la mer qui rétrécissait de plus en plus ce plateau semblable tout à l'heure à une lande immense. Un seul espoir lui restait, celui de héler quelques barques à la mer haute. Encore était-ce là une ressource douteuse, car on était en pleine maligne de l'équinoxe, et par ce temps-là les barques ne sortent pas volontiers du port, où d'ailleurs sa voix ne pouvait parvenir. Elle appela cependant de toutes ses forces, et Reinette joignit des cris perçants aux siens,
mais un vent furieux qui s'est élevé vers le coucher du soleil empêchait qu'elle ne s'entendisse elle-même. Il souffla bientôt si violemment qu'il fallut, au risque d'être emporté, rentrer dans la cabane. À sa grande surprise, Jenny trouva Job debout et vêtu d'un méchant habit déguenillé. Ne la voyant plus auprès de lui au réveil, il s'est élevé pour s'assurer de ce qu'elle était devenue. « Ah ! » dit-il avec un soupir de soulagement, « je n'ai donc pas rêvé. » Jenny lui montra par la porte ouverte les grandes eaux qui s'enflaient de plus en plus. « Eh bien ! » s'écria Job, emporté par un mouvement de joie irréfléchi. « Vous êtes à l'abri toutes les deux, attendez. »« Attendre demain ? Et jusqu'à demain, que penseront mes frères ? Ils auront un motif de plus pour m'humilier, comme si ce n'était pas assez, » murmura-t-elle, ne pouvant retenir une larme. Depuis quelques minutes, Job ne se sentait plus malade d'esprit ni de corps. Sa maladie n'était en somme que le vertige produit par cette contemplation de nous-mêmes qui est une forme ascétique de l'égoïsme. L'intérêt subitement réveillé dans son cœur pour une autre créature l'en avait délivré. Il voulut sortir malgré sa faiblesse, fit des signaux, essaya d'allumer des feux de détresse, mais la fureur des éléments croissait, annonçant de plus en plus une nuit de tempête. Le vent éteignait le feu, emportait la voix, et aucune barque ne se montrait sur les liquides montagnes d'un vert écumeux, menaçant, qui avait pris la place des roches submergées. « Allons, » dit Jenny, le rejoignant après avoir calmé sa fille, qui se désolait de ne pouvoir rentrer souper. « Allons, Job, du temps qu'il fait, vous ne pouvez rester dehors. Le mal est sans remède, autant n'y plus penser. » Ses yeux étaient rouges, néanmoins. Job voulait qu'elle prît pour la nuit l'avant de la cabane. Elle s'y refusa obstinément et coucha Renette dans l'étable après lui avoir donné sa part d'un repas de laitage et de patates qui excita l'appétit du malade lui-même, habitué à une chair moins bien préparée. Ensuite, Jenny entreprit de raccommoder les haillons de son hôte sans rien dire, car elle avait le cœur serré. Job se taisait aussi. Il était honteux devant Jenny de la misère et du désordre qui régnait chez lui. Il songeait à son ménage d'autrefois. « Tu me rappelles, » dit-il enfin, « ce que ma défunte répétait toujours de toi. Cette fille-là a vraiment des mains de fée. Je m'étonne, sais-tu, qu'il ne se soit pas trouvé un garçon d'esprit pour faire de toi sa femme. Je crois bien, mon pauvre Job, que vous avez encore la fièvre. Personne ne voudrait m'épouser, et cela vous surprendra peut-être, je ne me soucierai moi non plus de personne. » « Parce qu'un seul pouvait te plaire, » dit Job avec une pointe de mauvaise humeur. Jenny secoua tristement la tête. Un homme capable de faire son plaisir du malheur d'une fille de 17 ans qui n'a pas de mère, un pareil homme, que Dieu lui pardonne, n'est pas digne d'élever son enfant. Ma Renette est mieux sans lui. Pourquoi donc n'en pas vouloir un autre? Qui me reprocherait ma faute? Bonsoir, Job. Il est temps de dormir. Cette nuit ne sera pas longue. Je ne veux pas manquer la marée basse encore une fois. » Elle lui sourit de son beau sourire grave, et elle a retrouvé sa fille dans l'étable. Job resta, les yeux fixés sur le feu, jusqu'à ce que le dernier tison fût éteint. Il était animé d'un besoin vague de dévouement, d'activité. Quand il eut regagné sa couche, la même rêverie continua de l'obséder, chassant le sommeil. La tempête déchaînée au dehors eut suffi d'ailleurs pour l'empêcher de fermer les paupières. Il semblait qu'elle voulût emporter la cahute, tant celle-ci craquait sur ses bases. Les éclairs d'un orage terrible brillaient à travers le volet disjoint. Une inquiétude toute paternelle lui vint que la toiture délabrée de l'étable ne préserva mal de la pluie Jenny et son enfant. Il lui avait semblé entendre gémir la petite Renette. Allumant donc sa lanterne, il écarta un peu les fagots qui séparaient ces deux réduits. Sous la laine tiède des vaches paisibles, elle dormait d'un sommeil aussi doux que si les anges l'eussent bercée au lieu du tonnerre et de la rafale. Jenny n'avait ôté de ses vêtements que la coiffe qui renfermait d'ordinaire sa chevelure magnifique. À demi étendue sur l'épaisse litière, le front dans sa main, elle serrait son enfant contre elle, et leur attitude à toutes deux évoqua pour Job une vision de la crèche de Bethléem. Il n'osa faire un pas de plus, ses genoux fléchirent. Pour la première fois, il était frappé de la beauté de Jenny. En admirant la grâce chaste de son sommeil, il sentait une corde depuis longtemps muette vibrer au plus profond de lui-même. Il sentait renaître les transports que l'inspiration lui prêtait autrefois, la joie de vivre.
Effrayé d'abord, il laissa rentrer en lui peu à peu, sans leur opposer de résistance, les forces, les aspirations, les désirs si longtemps conjurés par le plus implacable exorcisme. Ce fut pour Job comme un réveil de la nature, de la raison, de l'homme tout entier. La rhétorique farouche du recteur s'envolait en fumée. De célestes violons chantaient plus haut que l'orage, et ce miracle s'opéra par la puissance d'une femme endormie. À l'aube, Job reposait enfin, vaincu par l'accablement qui peut suivre une telle crise. La mer grondait moutonneuse dans le lointain comme un monstre dompté. Une belle journée se levait sur les grèves humides que Janie traversait d'un pas lent. Son nom fut le premier mot qui vint aux lèvres de Job, mais elle ne l'entendit pas, et lui, ne trouvant plus rien d'elle, aurait pu croire à une illusion de la fièvre et de la nuit si la place qu'avait foulée son corps ne fût restée tiède sur la litière de l'étable. Il s'y jeta pour verser des larmes de reconnaissance qui furent ce matin-là toute sa prière au vrai Dieu qui l'avait délivrée.